Je suis Anne Boucharla, bienvenue dans les Grands S'amusent, transmission intergénérationnelle sur Aligre FM. Aujourd'hui, nous parlons de diplomatie et de culture. 2022 est l'année du 100e anniversaire de l'établissement des relations entre la France et l'Afghanistan, basée sur une relation d'amitié et de fraternité. La culture est le mot-clé de cette relation. J'ai choisi d'inviter M. Régis Kouetchet pour un thé vert. Ancien consul général à Jérusalem et ancien ambassadeur de France à Kaboul de 2005 à 2008, vous êtes un diplomate romantique, combattant, humble, un amoureux de la géographie et de l'histoire, engagé dans la paix, le dialogue et la solidarité. Vos pérégrinations diplomatiques vous ont mené de la Libye en Irak, au Pakistan, aux Pays-Bas, au Sultanat d'Oman, au Togo, à Jérusalem et à Kaboul, au terme d'un parcours où vous avez côtoyé des Kadhafi, des Arafat, Hamid Karzai, etc., etc. Auteur de textes et de livres, interprète entre les différents acteurs, compositeur de liens entre les peuples. La diplomatie par la peau, telle est votre vision des choses. Celle du toucher, des odeurs, sortir du cercle des interlocuteurs cooptés. Pour comprendre des situations, le facteur local, le lien tribal sont prégnants. Pour enfin rendre compte à Paris de cette réalité qui sent la cardamone, pour reprendre vos mots. Vous publiez deux livres sur l'Orient du temps long, à la croisée d'histoires millénaires et de spiritualités ardentes, et initiez Itinéraire afghan, un collectif d'auteurs. Nous allons évoquer l'importance de partager une tasse de thé, la difficulté de transmettre à Paris, le rôle de la culture et le jeu subtil de la diplomatie entre le langage de bois des ministres et des années de terrain à démêler les fils. Bonjour, monsieur Régis Kouetchet.
Bonjour.
Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Ma première question est, qu'avez-vous reçu en héritage culturel et intellectuel? En d'autres mots, que vous ont transmis vos parents, vos grands-parents?
Bah écoutez, je pense à un moment où j'ai senti et ressenti et où j'essaye aujourd'hui de faire ressentir la même impression. C'est ma première visite dans un musée, à vrai dire. Et c'était au musée de la Marine, au Palais de Chaillot. Et c'est un moment qui a été pour moi assez fort, parce que tout se mélangeait un petit peu, le côté un peu cabinet de curiosité, les maquettes, les cartes, tout ça m'a marqué. Et je suis très reconnaissant à mon père de ce moment. Et depuis, j'ai emmené mes enfants et j'emmène mes petits-enfants. Actuellement, le musée de la Marine est en rénovation, mais j'attends. Et la famille, nous essayons de visiter les différents musées de la Marine de par le monde, un peu comme un totem.
Quoi. Comme un totem, oui. Et donc, c'est ça qui vous a donné envie, cette curiosité d'aller, d'aller voyager dans différentes contrées.
En tous les cas, ça m'a marqué. Et dans mon livre sur Malraux, j'ai repris d'ailleurs cette phrase que je trouve très belle. Il me semble toucher l'Asie comme lorsqu'enfant, je posais sur l'islam légendaire de la map monde ma petite main qui la couvrait de Bagdad à Lahore. Et c'est tous les mots sont finalement, je les retrouve, la map monde, la petite main, et puis ces pays de l'Orient des mille et une nuits. Quoi.
Qui vous ont tant fasciné. Quel a été votre premier grand voyage?
Écoutez, mon premier grand voyage, c'est l'année de mes 20 ans. Je pars avec un ami, on part à Dakar, dans une vieille deux chevaux des postes. Vous savez, ces deux chevaux qui avaient un pont long, qui faisait camionnette. On avait hésité entre le Cap Nord et Dakar. Vous voyez, comme quoi le hasard fait parfois bien les choses. Et c'est Dakar qui est les dés se sont prononcés, on est parti à Dakar. Et ça a été, je dirais, la découverte de beaucoup de choses. D'abord l'Afrique, puis le désert, puis un sentiment de liberté, puis effectivement une curiosité, une fraternité, une envie de connaître que nous n'avions jamais ressentie, ni l'un ni l'autre. En plus, c'était la route de l'aéropostale, et donc on était là un petit peu à suivre les étapes de Mermoz et de Saint-Aix. C'est, ça a été ça le premier voyage clairement fondateur à l'été 1969.
D'accord. C'est Hubert Vidrine qui parle aussi de son premier grand voyage en Opel Capitan d'occasion et qui se remémore ce périple en disant c'est plus riche et formateur que des dizaines de voyages ministériels. Est-ce que vous êtes assez d'accord avec ça?
En tous les cas, j'ai recueilli cette phrase d'Hubert Vidrine et qui avait terriblement envie de parler d'Afghanistan, je m'en suis aperçu. C'est pour ça que j'ai intitulé cette rencontre « Le jardin secret afghan d'Hubert Vidrine ». Et il m'a dit « Mais ça valait 10 voyages ministériels, tellement effectivement j'ai appris de choses ». Et je crois que j'ai été très touché d'ailleurs que Vidrine, qui est un homme assez pudique, se lâche un petit peu comme ça, parce qu'il avait envie de... Il avait envie de rendre un petit peu à cet Afghanistan ce que ce pays lui avait donné.
Oui. Est-ce que c'est au cours justement de ce premier voyage que vous avez compris l'importance d'être au plus près de l'autre, d'aimer les hommes, est-ce que vous avez compris cette empathie qu'il faut avoir avec les cultures rencontrées ou que vous avez rencontrées naturellement?
Je ne sais pas si c'est... Oui, je pense que c'est... Je ne suis pas certain que le mot d'aimer... Enfin, il faut être disponible. Et c'est vrai que... À un moment, dans le nord de la Mauritanie, on a eu envie, on a laissé notre deux chevaux, on a continué sur des camions pour être, je dirais, au plus près de la population. On avait envie, effectivement, de réduire cette distance. Et on a récupéré notre deux chevaux au retour, en passant par l'Algérie. Mais c'est vrai que ce contact nous paraissait, au milieu du désert, essentiel, quoi.
Oui, donc ça a été un voyage initiatique. Est-ce que c'est ce voyage qui vous a donné envie ensuite de devenir diplomate?
C'est-à-dire que ça a été le premier pas. À cette époque-là, je ne savais pas trop où j'allais. L'année d'après, je suis parti au Proche-Orient tout seul, toujours pendant les vacances d'été. Je suis parti en Égypte, en Syrie, au Liban. Et au retour, les choses se précisaient un petit peu. Ce pays m'intéressait, cette région du monde m'intéressait. Et puis, un peu curieusement, j'ai fait un concours radiophonique qui m'a conduit un peu plus au sud, vers Djibouti et le Yémen. Et le Yémen a été, à ce moment-là, une sorte de coup de foudre terrible,
Vous avez même fait un guide touristique du Yémen.
J'ai été guide. J'ai été étudiant et à ce moment-là, j'allais donc plusieurs fois par an au Yémen pour accompagner c'était les premiers groupes touristiques vous imaginez la tête de mes chers collègues, de mes camarades à la fac qui me voyaient partir comme ça pour ces voyages. J'ai fait ça 2 années de suite.
Donc une vraie curiosité pour l'autre. Vous êtes comment vous êtes arrivé justement à ce poste, à ces postes de diplomate?
Il faut voir que cette période-là est une période assez intense sur le plan politique. Je crois que ça compte beaucoup. À ce moment-là, moi, j'étais étudiant à la faculté de droit.
Donc, quand vous dites à cette époque-là,
Les années 70. C'est-à-dire les années du nationalisme arabe, de mouvements comme ça, de mouvements révolutionnaires. Et au Yémen, par exemple, au Sud-Yémen. Et à ce moment-là, j'ai ressenti le besoin. J'hésitais entre le journalisme et la diplomatie. À ce moment-là, je me suis dit, il faut que je fasse les langues eaux. Donc, je me suis inscrit en plus aux langues eaux. Et c'est vrai qu'il y avait cette effervescence politique que l'on a connue. C'est les années 70, c'est après mai 68. Et ça m'a aussi beaucoup intéressé, ce qu'on a appelé le tiers-mondisme, les mouvements du tiers-monde, les mouvements révolutionnaires. J'ai eu envie, effectivement, de mieux comprendre, de suivre un petit peu tout ça.
Alors, vous parlez de diplomatie curieuse dans votre livre, qui englobe beaucoup de sujets, pas uniquement justement la géopolitique et pas juste l'acharnement géopolitique. Vous dites qu'on se voit les vrais sujets. Qu'est-ce que vous entendez par diplomatie curieuse?
Je pense que... J'ai eu beaucoup de chance parce que Bertrand Badi a eu la gentillesse de préfacer mon livre. Et Bertrand Badi a écrit un livre qui s'appelle le monde n'est plus géopolitique, en quelque sorte, pour nous inciter à ne pas tout regarder à travers un prisme géopolitique, mais à voir qu'aujourd'hui, les sociétés sont des éléments très importants dans la vie internationale, les dérives des sociétés, et il est important, effectivement, d'avoir une curiosité pour tout cela, et un peu comme Edgar Morin, jouer d'une articulation, c'est-à-dire d'une complexité en quelque sorte naturelle, ne pas penser qu'une situation résulte d'une seule causalité, mais essayer d'en articuler plusieurs et aussi de faire rentrer un petit peu de vie dans tout cela. C'est la fameuse cardamome. C'est d'amener un petit peu un rayon... Je ne dis pas un rayon de soleil, en tous les cas, un peu d'odeur pour essayer de donner à tout cela un contenu qui soit plus en cohérence avec une réalité.
Vous évoquez lors d'un dîner à l'ambassade d'Italie la complexité afghane. Le visiteur qui se trouvait à côté de vous vous interrompt sèchement en disant « La complexité, c'est bien un truc de diplomate français. » On voit bien le décalage entre la communauté internationale qui est pressée et vous.
C'est un souvenir assez cuisant, je dois dire. Et c'est vrai que c'est un ministre de Berlusconi. Donc on est dans cette approche un petit peu qui a été celle qui a été très puissante également dans les années diplomatiques Bush. Et je pense que voilà, il y avait une volonté d'affirmer une sorte de projet et il fallait y aller tout droit et en quelque sorte des éléments qui apportaient une complexité étaient perçus comme des freins à l'action. Et en fait, malheureusement, le résultat montre que c'est pas tout à fait...
Ça, oui. On en reparle tout de suite après la musique.
Baruch atah Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Baruch ata Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Shalom, salam aleikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, amen. Let's give thanks and praises. Baruch atah Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Baruch atah Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Jerusalem, Irahim. Jerusalem, je t'aime. Kirati. Israela Yakirati. Ani Oev Ota. Israela Yakirati. Israela Yakirati.
Nous reprenons avec Monsieur Régis Couette-Chouette et nous sommes sur Aligre FM 93.A pour une émission sur la diplomatie et la culture. Régis Couette-Chouette, je voulais savoir quelle est la force de la diplomatie française, en quoi elle se distingue des autres diplomaties. Est-ce que les diplomates français sont plus sur le front, sur le terrain?
Je pense que c'est une diplomatie d'abord ancienne et professionnelle. Donc, je pense qu'elle est là surtout dans un fonctionnement qui recherche l'efficacité, qui recherche aussi la qualité. Et je dirais qu'elle a cette force aussi de reposer sur un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs. Nous avons la chance, effectivement, d'appartenir à un pays qui propose une diplomatie qui est orienté vers la paix, vers le dialogue. Je pense que moi, j'ai eu, tout au long de ma carrière de diplomate, je sentais bien que c'était les éléments qui étaient un petit peu la boussole qui nous conduisait. Alors, moi, tout cela, effectivement, appartient, je dirais, aux grandes diplomaties occidentales et d'autres pays du monde. Ça n'est pas une spécificité. Ce que je trouve fort, s'agissant de la diplomatie française, c'est la place qu'elle reconnaît, qu'elle donne à la diplomatie culturelle. Et les outils également qui sont donnés à cette forme d'action diplomatique, à la fois, je dirais, ce que l'on voit, ce que l'on connaît, c'est-à-dire notre politique de coopération, nos centres culturels, le soutien apporté aux centres de recherche aussi. Je crois que tout cela, effectivement, distingue la diplomatie française d'autres diplomaties. Il y a un réel souci, il y a des moyens qui sont mis en œuvre et il y a des gens de qualité pour faire fonctionner tout ça.
D'accord. Alors, votre mission à Jérusalem a été dominée par la relation avec Arafat,
oui,
qui était l'ancien président de l'autorité palestinienne. Quelle était votre mission là-bas? Est-ce que c'était d'entamer un dialogue entre les Juifs et les Arabes? On imagine, vous êtes aux premières loges. Qu'est-ce que vous faites de tout cela?
C'est un poste très particulier et assez sur la carte diplomatique du monde. C'est un poste qui est très ancien d'abord, hein, puisqu'il remonte à l'époque des... Il est lié aussi à la notion de pèlerinage, à la présence spirituelle à Jérusalem. Et donc nous avons, en 1948, l'établissement de l'État d'Israël, une ambassade qui est installée à Tel Aviv, et un consulat général à Jérusalem, dont la fonction a trait justement à Jérusalem, à la dimension spirituelle et à la relation avec l'autorité palestinienne. Et donc, effectivement, j'ai dans mes responsabilités cette relation à un moment qui est difficile, puisque j'étais là-bas de 2002 à 2005, qui est la période de la deuxième intifada. Et ce que nous essayons de faire, c'est, je dirais, toujours avec cet espoir et cette volonté et cet engagement en direction du processus de paix, je dirais, de mettre tous les acteurs un petit peu dans le sens de la marche, et pour ce qui me concerne, les Palestiniens, et donc essayer de pousser les responsables palestiniens à la fois à des politiques de réforme et puis aussi à des politiques qui, je dirais, tournent le dos à la violence, bien sûr, pour s'engager de manière plus claire dans un processus diplomatique. Et ça s'accompagne effectivement d'une relation un petit peu, je dirais, hors du commun, compte tenu de la répétition des rencontres que j'avais jusqu'à la fin, je dirais, puisque, comme vous le savez, Il part ensuite pour être soigné en France et il mourra le 11 novembre 2004.
Donc c'est là que l'informel est important pour recueillir des informations qui peuvent servir à l'avancée des négociations.
Il y a effectivement la nécessité d'abord d'établir une relation. C'est comme ça que je l'ai vécu.
Oui.
Il faut établir une relation. C'est vrai qu'on dit toujours les 5 premières minutes.
Oui.
Les 5
oui.
premières minutes, ça compte. C'est-à-dire comment finalement on va faire
on
avec...
Aborde.
Voilà, comment on aborde, comment la relation se noue. Même si on pourra la corriger après, j'ai connu des 5 premières minutes difficiles dans
oui.
d'autres cas.
Oui, qui étaient difficiles à rattraper.
Voilà, mais on y arrive. Et là, effectivement, c'est la façon d'établir une relation et ensuite de lui donner une rigueur, une qualité, une confiance. Alors, bon, je veux dire que j'ai eu de la chance, j'ai été aidé parce que, vous souvenez-vous, il disait Chirac, le docteur, il l'appelait le docteur Chirac,
oui, oui, oui.
celui qui va soigner les maux de. Et donc, il avait effectivement une grande confiance dans notre pays. Et d'ailleurs, nous étions un petit peu, voilà, y compris d'autres responsables me disaient, tu dois, il a confiance en la France et les conseils de la France portent.
Portent. Donc, ça allait quand même dans le sens du dialogue.
Ça allait. Bon, tout cela était très oui. difficile parce que à l'époque, il était enfermé dans ce fameux bâtiment de la Moncata.
Voilà. Ouais.
Et donc, il y avait une sorte d'enfermement à la fois physique et puis aussi un petit peu intellectuel. Et donc, il fallait un petit peu, voilà, essayer de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes, de l'amener un petit peu à retrouver des éléments d'ouverture. Lui était disposé. Tout ça a été une aventure assez extraordinaire, je veux dire, pour un diplomate.
C'est une chance, c'est un poste qui était presque envié.
Oui, de toute façon, Jérusalem est traditionnellement oui. un poste où les diplomates aiment servir, parce que c'est un poste, encore une fois, hors du commun, et on y fait des choses extraordinaires. On est dans une ville qui est d'une extraordinaire beauté, et puis, on a le sentiment d'être utile. C'est
oui.
ça qui est tout à fait important, parce qu'on apporte des éléments à Paris. Ce que Arafat me disait me permettait, si vous voulez, de rapporter un certain nombre de choses. Et ça se passe notamment autour de cette année 2003, qui est une année, on le voit encore aujourd'hui, absolument déterminante pour l'évolution de la marche du monde.
Mais justement, est-ce que vous étiez entendu, écouté à Paris quand vous rapportiez, comme vous dites?
Écoutez,
comment ça se passe? Est-ce que on prend le temps de vous écouter, de d'écouter cette complexité que vous rapportez?
Là, dans mon livre, j'ai un petit peu essayé de manière un peu, voilà, de faire un parallèle parce que j'ai ressenti deux formes de. À la fois, la transmission n'était pas la même parce que transmettre une situation d'un pays en guerre dans lequel nos forces sont engagées, comme c'était le cas pour l'Afghanistan, et une situation extrêmement politique, ce qui était le cas du processus de paix, ce sont deux formes de travail diplomatique qui sont différents. Mais c'est vrai qu'à Jérusalem, j'ai eu le sentiment à la fois de recevoir des instructions très claires de Paris, donc de les rapporter, de les transmettre d'abord aux Palestiniens et puis de voir les retours. Tout ça a été marqué de façon très claire, très forte, d'une manière suffisamment régulière et confiante qui permettait de rentrer dans un travail diplomatique, je dirais de dentelle diplomatique. Et puis, ce que je trouvais aussi, c'était... J'avais le sentiment d'avoir derrière moi des visites de parlementaires. Donc, c'est très important, une diplomatie qui se sent en quelque sorte
soutenue,
oui. portée par la représentation parlementaire, que ce soit des députés ou des sénateurs. Et puis, il y avait ces voyages de pèlerins. Moi, je leur disais, tous les groupes, je les reçois. Ça me coûtera un jus d'orange. Mais comme je... Je leur disais, et je le pense très, très sincèrement, le processus de paix est l'affaire de tous. Donc, chacun y a sa part.
Sa petite contribution.
Et donc, si je pouvais, d'une certaine manière, apporter un élément de compréhension, pour moi, c'était précieux.
Ça doit être passionnant. Et justement, qu'est-ce que vous, vous appreniez sur le plan personnel aussi, hein? Quels enseignements vous tiriez à côtoyer des hauts dirigeants de pays en conflit? Parce oui, que ça a souvent été le cas, hein. Vous avez toujours beaucoup été dans des pays en conflit.
Oui, enfin, c'est un peu le lot, je dirais, d'une diplomatie. D'abord, on n'a pas toujours dans les mêmes responsabilités. Quand j'étais à Bagdad pendant la guerre Iran-Irak, j'étais à un poste qui était plus bon, mais qui me mettait quand même au contact d'une réalité que j'avais à gérer pour ma famille et pour moi-même. Et c'est vrai que la guerre Iran-Irak est un souvenir très fort parce que c'est une guerre terrible, un petit peu d'un siècle passé. Ce que l'on observe au contact des dirigeants, c'est que quelque part le pouvoir isole. On sent à la fois des gens qui sont en prise de manière très forte et en même temps quelque part un certain décalage avec une réalité qui arrive jusqu'à eux par toute une série de filtres. Souvent, ce sont des hommes de pouvoir, bien sûr, et on sent la force du pouvoir, la force des mots, la force des gestes également. Et nous, on est là un petit peu à essayer de faire rentrer d'autres idées ou de recueillir des réactions sur tel ou tel sujet.
Mais vous parlez de leur solitude à eux, mais il y a aussi votre solitude, la solitude du métier avec des pressions de plusieurs côtés. Comment vous vivez ça, cette solitude du métier entre justement, vous dites, pour parler de l'Afghanistan, l'Afghanistan rentre difficilement dans les slides dont raffolent les états-majors, il y a un décalage quand même avec... Donc vous, comment vous gérez ça,
vous avez raison d'employer ce mot. Il y a une solitude, je pense. Il y a une solitude de l'ambassadeur. D'abord, il y a des choses qu'on ne peut partager avec personne. Et y compris, d'abord, à Kaboul, ma femme venait de temps en temps, mais j'étais pour l'essentiel seul, même si j'ai eu la chance de pouvoir recevoir ma femme, mes enfants, de les emmener à Bamiyan. Mais c'est vrai qu'on est quelque part avec des choses que l'on ne peut pas partager. Et c'est difficile. Et puis, il y a aussi, par moments, ça c'était le cas pendant les prises d'otages notamment, où il faut cloisonner, où il faut... Et ce n'est pas toujours facile. Et bon, on est dans un rôle un petit peu ingrat. Et puis, il y a effectivement cette difficulté parfois que l'on ressent de transmettre, la difficulté qu'on peut avoir... parce qu'on a le sentiment que Paris est plus un petit peu imperméable à nos arguments, qu'on n'arrive pas à les faire passer, qu'on n'est pas suffisamment compris. Enfin, il y a un petit peu ce travail-là qui est accentué par la distance, qui peut être accentué aussi par l'adrénaline qui entoure tout ça, puisque nous avons aussi, on pense... constamment à nos collaborateurs, à nos compatriotes, à la sécurité, et à l'adéquation qu'il faut essayer de trouver entre un environnement qui est
à peu près sécurisé voilà. Et puis en même temps.
Ouais. Et puis ce que j'ai essayé quand même de protéger des espaces de proximité en croisant les doigts bien sûr pour que tout se passe bien.
Oui, et donc nous revenons sur tout ça juste après la musique. Thank you.
bon, de nuit à Yobon. Abdou, Ouyambar, Nyare Malaikala. Hawe, He Chico, Dano Cicero. Momu, Munila, Begam Julingam. Momu, Munila, Begam Wonga. Momu Munila Degam Julinga. Momu Munila Degam Wanga. Tajabon Denyi Tajabon.
Abdou Jambar, Nyari Malaikala, Chikau Lay Joge, Danu Cicero, Munila, Degam Julinga, Munila, Degam Worga.
Reprenons avec Monsieur Régis Couette-Chouette et nous sommes sur Aligre FM 93.1. Pensez-vous qu'il serait intéressant que les diplomates soient plus écoutés? Comment arriver à se faire plus entendre?
Moi, je pense que la diplomatie est entendue. Je suis très confiant dans la place que la diplomatie occupe dans la marche du monde. Bien sûr, c'est difficile parce que pour moi, la diplomatie, c'est à la fois une part de proximité et une part de confidentialité. Il y a une part qui est, je dirais, ce qui est de la profondeur de l'iceberg qui est extrêmement important. Et malheureusement, aujourd'hui, on est un petit peu dans la distance et dans la survisibilité. Et donc, c'est vrai que les diplomaties ont plus de difficultés à s'exprimer dans ce contexte-là. Mais pour autant, je pense qu'elles ont leur place. Le problème que j'ai pu observer ces derniers temps, c'est-à-dire que les diplomaties aussi ont besoin d'une sorte de confiance dans le multilatéralisme, dans l'universalisme. Et c'est vrai que des politiques ou des orientations qui sont trop tournées, je dirais, vers quelque chose qui est une déconstruction, c'est vrai que la diplomatie, elle y trouve sa place, mais elle est moins, à mon avis, valorisée et valorisante. Et moi, je suis plus attaché à la construction qu'à la déconstruction. Et je pense que la paix a besoin de multilatéralisme et d'universalisme et d'être respectée et aimée pour cela, quoi.
Et de temps. Et de temps,
bien sûr. Et de ne pas se laisser complètement dominer par un temps court qui peut être celui qu'appelle l'émotion, mais qui peut aussi, derrière, je dirais, porter toute une série de ressentiments et d'incompréhensions.
Et c'est vrai que quand vous dites, quand on parle de temps long et d'émotion, là, pour évoquer un tout petit peu la guerre en Ukraine, on est beaucoup dans l'émotion et on a l'impression que, même si, bien sûr, ce qui se passe aujourd'hui est juste est absolument affreux, cette guerre en chasse beaucoup d'autres.
Oui, alors, bon, c'est vrai qu'il faut, je pense, d'abord, il faut prendre les souffrances comme elles sont. Toujours Bertrand Badi a écrit un livre qui s'appelle « Un monde de souffrances ». Et je pense que nous devons être bien conscients, effectivement, des souffrances qui s'expriment à la fois dans des situations de guerre, mais aussi dans des situations de pauvreté. C'est vrai que la guerre, notamment la situation en Ukraine, nous rappelle l'importance du droit international humanitaire. Je pense que c'est quelque chose sur lequel les diplomaties ont raison de se battre. Et aujourd'hui, on voit également apparaître ce concept de justice pénale internationale. Ce sont des données qui sont nouvelles et qui ont été forgées, portées par la diplomatie et dans lesquelles...
Oui, on parle de crimes de guerre.
Et puis cette notion-là, je pense aujourd'hui... Ce sont des choses qui sont tout à fait considérables dans la compréhension que l'on a de situations internationales et de conflits. Je pense aussi qu'il est important d'essayer d'ouvrir les focales. C'est-à-dire, moi, je me souviens, j'ai été en Turquie pendant la première semaine de la guerre en Ukraine pour présenter mes livres à Istanbul, et on sentait une autre façon, d'abord une proximité, parce que c'est sur la mer Noire, le Bosphore, la proximité, les enjeux, et puis également l'importance qu'il y a à regarder finalement tous ces conflits dans une perspective qui, certes, est celle d'un conflit sur la terre de l'Europe et pour nous donc une sensibilité, une proximité toute particulière, mais aussi malheureusement un conflit qui s'articule avec une évolution du monde. Et moi, je suis également parti de ce qu'a été le retrait cet été américain de l'Afghanistan, de voir les conséquences que cela peut avoir et la façon dont tout cela, malheureusement, toutes ces situations s'articulent les unes aux autres.
Oui, et c'est Hubert Védrine aussi qui dit que, en parlant de l'Afghanistan, que c'est un tombeau du droit d'ingérence.
Vous savez que beaucoup de... Il y a toute une mythologie autour de l'Afghanistan, oui. Et donc il y a toute une série de concepts, de mots qui sont attachés à ce pays. Moi, il y en a un qui me plaît, que j'ai rapporté, c'est celui que Babur, le fondateur de l'Empire moghol, dit Kaboul, le centre du monde habité. C'est-à-dire une notion de centralité. Et je crois que quand on regarde une carte, c'est assez frappant. Et aujourd'hui, le président Biden a estimé que cette centralité n'était plus aussi prégnante. En tous les cas, moi, je suis attaché à cette notion géographique.
Oui. Alors, on va parler un petit peu du rôle de la culture. Le rôle de la culture, est-ce que par exemple, je pense à la DAFA, la délégation française d'archéologie. Et est-ce que, justement, c'est se référer au passé, c'est bien connaître son histoire. Est-ce que c'est important, justement, cette culture pour trouver son identité, pour montrer tous les brassages qu'il y a eu dans le monde et essayer d'en faire une histoire mondiale un peu commune?
Écoutez, je suis très heureux que vous ayez pris cet exemple, parce que c'est vrai qu'il est extraordinairement parlant. Parce que finalement, le choix qui a été fait par les autorités afghanes en 1922 de se tourner vers la France pour à la fois accompagner une modernisation éducative et puis aussi faire ce recensement patrimonial comme en quelque sorte l'élément fondateur d'un roman national. C'est-à-dire finalement d'associer à la fois modernité, archéologie, patrimoine dans une démarche fondatrice et éminemment politique. Et nous avons eu la chance d'être choisis, en quelque sorte, à l'époque. Ce qui fait
par le gouvernement afghan.
Par le gouvernement afghan. C'était l'époque, si vous voulez, aussi au même moment d'Atatürk, quand il y avait un petit peu cette notion, cet attrait. Et le roi Amanullah se faisait traduire les œuvres de Jules Verne.
En français, en persan.
Et les faisait lire à la cour pour, en quelque sorte, que ce soit un vecteur de progrès. Et donc, la DAFA a été créée par Alfred Fouché dans ces conditions-là. Et ça veut dire que la culture a précédé la diplomatie. Et quand, en 1965, le roi Zahir Shah a été reçu par le général de Gaulle pour une visite d'État en France, c'est ce que le général a rappelé dans le toast à l'Élysée le premier soir. Bien entendu, c'est par la culture que le mouvement a commencé, car tout procède de l'esprit. Et cette phrase, moi, je trouve qu'elle est extraordinaire et elle est attachée à la relation que l'on a avec ce pays.
Ouais. Donc la culture invite au dialogue.
La culture invite à la connaissance.
À la connaissance.
Je pense que connaître et être connu, c'est-à-dire aussi à un encouragement à la création, au débat d'idées, à l'apprentissage, oui, et ensuite à l'émancipation, à dénouer des nœuds, effectivement. Et je trouve que c'est vraiment ce que j'ai ressenti en voyant cette jeunesse fréquenter nos centres culturels. Et c'est ce que l'on voit avec les jeunes Afghans qui aujourd'hui sont à Paris. C'est finalement, voilà, ils se sont attachés à dénouer des nœuds très profonds, très difficiles. Et puis, c'est une contribution à la paix, au dialogue, parce que l'échange culturel est un élément, effectivement, qui contribue, à mon avis, parce que toute une partie du conflit est fondée sur l'ignorance méconnaissance.
Oui. Et puis, ça ne s'améliore pas en Afghanistan avec les talibans et l'obscurantisme.
Non, bien sûr.
Donc, c'est Sophie Macariou, qui est directrice du musée Guimet à Paris, qui se plaît également à observer les visites des enfants de l'exil, recherchant dans les figurines du Gandhara ou les statuettes Khmer le chemin de leur identité.
Exactement. Et c'est très émouvant. Je l'avais rencontrée pour la revue Les Nouvelles d'Afghanistan. Donc, c'était à la mi-juillet. Donc, on voyait effectivement l'évolution de la situation en Afghanistan se dessiner de manière très forte. Et à la fois, elle, qui est au contact de cette réalité, à la fois, elle sentait un petit peu une difficulté dans la rencontre qu'il y a aujourd'hui entre l'Orient et l'Occident, et en même temps, ces enfants de l'exil qui sont en quête, en quelque sorte, de racines, et qui les trouvent aussi dans nos musées.
Donc, d'où l'importance de la culture. Êtes-vous confiant dans l'humanité ?
Je crois qu'il faut. On a bien sûr.
Difficile question.
Non, mais il faut être. Il faut. Moi, je n'aime pas le cynisme, et je ne pense pas non plus être angélique. Je n'aime pas dénoncer, je n'aime pas critiquer. Je préfère être positif. Donc, c'est un peu, je dirais, une position de principe. Et ce que l'on voit quand on bouge un petit peu, quand on sort de son précaré, on voit effectivement des démarches qui sont porteuses de. Qui sont porteuses de création, qui sont porteuses d'amitié, de fraternité. On a la chance aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas toujours la chance, de pouvoir accéder, je dirais, un peu à tout, à travers l'image, et on voit beaucoup de choses. Et de mon temps, on écoutait la nuit sur les radios ondes courtes, Le Monde. Aujourd'hui, on peut passer comme ça.
Oui.
Et je trouve que c'est assez passionnant. Et personnellement, oui, j'ai confiance, même si... c'est vrai que je trouve très fondées les inquiétudes qui s'expriment par rapport à notre planète, par rapport à la façon dont elle est saccagée, en quelque sorte, et par rapport aussi à la façon dont des éléments très durs, de bâtiments, etc., viennent un petit peu bousculer des paysages de manière durable. Et de manière, c'est ça aussi qui fait la grande différence dans le désert entre ce qu'était le cheminement du nomade et aujourd'hui des réalités qui font que vous créez la tour Burj Dubai qui ne peut pas être démontée.
on impose un peu
on impose
un peu nos modèles.
Voilà, et des paysages qui sont parfois, je dirais, qui vont construire aussi des comportements. C'est ça qui est un peu inquiétant,
oui,
par rapport à,
oui,
à certaines régions du monde qui sont à la fois fragiles sur le plan écologique, mais également fragiles sur le plan humain.
Oui, donc c'est encore une fois, c'est la connaissance. C'est la connaissance de l'autre qui mène à...
En tous les cas, essayer le plus possible pour rentrer un petit peu... dans une relation de proximité, dans une relation de confiance.
Oui. Est-ce que vous gardez foi en la paix ?
Moi, j'essaye. Je trouve que je ne veux pas être béat. Et je pense que nous n'avons aucune raison de l'être, malheureusement. Et aujourd'hui, on ne peut être qu'inquiet de voir la façon dont le monde, dans lequel il se trouve, de voir des conflits qui, soit sont brûlants avec le cortège d'horreur qui les accompagne, soit des conflits qui sont dormants, soit des conflits qui sont oubliés, et en tous les cas, toute une réalité humaine qui est faite de souffrances, qui est faite de tragédies, qui est faite de personnages qui sont des voyageurs errants de par le monde, avec beaucoup également de... Et je pense que tout cela est une réalité sur laquelle nous devons le plus possible à la fois, je dirais, être conscients des choses et puis essayer d'œuvrer chacun à sa part. Ça, c'est ma conviction,
oui,
c'est un peu mon côté Pierre Rabhi et son colibri.
Oui, oui,
chacun
oui.
à sa
chacun
part,
porte.
Finalement, pour éteindre le feu de brousse, tel le colibri. Et je pense que ça peut être à travers une lecture, à travers une écoute, à travers un geste, à travers un sourire, et puis également à travers un petit peu, en tant que citoyen, le rôle que tout citoyen peut avoir dans un processus démocratique. Enfin.
Oui. Que vous ont transmis, justement, appris tous ces peuples ? Quelles valeurs vous ont-ils transmis ? Je crois que vous l'avez déjà bien évoqué, mais...
Quelque chose qui me marque et qui, je dois dire, aujourd'hui me marque également à travers les photos qu'on voit de l'Ukraine, c'est la place des anciens. Je trouve que l'Ukraine est aussi une très belle leçon que je retrouve, que j'ai connue bien sûr en Afghanistan, que j'ai connue dans les pays dans les pays arabes et autres, c'est-à-dire et en Afrique. Le respect naturel qui est donné en Afghanistan, on les appelle les barbes grises ou les barbes blanches. Et ils sont là avec une attitude toujours empreinte de grande dignité, beaucoup de respect autour d'eux. Et je trouve que cette importance qui est donnée à nos anciens est quelque chose qui m'a marqué dans les postes où j'ai été. Et là, les images que l'on voit autour de l'Ukraine, et je trouve que c'est aussi ces images que je retiens, c'est-à-dire des jeunes qui sont très attachés à leurs anciens et à la façon dont les anciens réagissent dans une situation qui est extrêmement douloureuse pour eux et qui est aussi très dure physiquement.
Pour eux. Physiquement, oui. C'est important de s'engager, de combattre tout type de cause.
En tous les cas, de ne pas rester, essayer de s'intéresser au monde dans lequel nous vivons, je pense que c'est précieux. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on ressent des joies, que ce soit à travers la lecture ou à travers... il ne faut pas toujours aller très loin. Vous allez aujourd'hui visiter l'exposition de Steve McCurry au musée Mayol. Vous faites le tour du monde et vous êtes heureux de voir ces images qui... Et pourtant, certaines sont des images très dures, mais elles portent une humanité. Et je pense que ça fait un petit peu partie des joies que l'on peut encore s'octroyer. Oui. Mmh.
Quel est l'ennemi principal de la diplomatie ?
L'ennemi principal, c'est un petit peu une forme d'enfermement, une forme parfois aussi une lecture très cérébrale des choses, qui est celle que l'on peut comprendre, mais je pense que ça, pour moi, c'est un petit peu, ce sont des éléments un peu dangereux. Je peux, comme je l'ai dit, la survisibilité aussi est extrêmement pernicieuse. Et ça, c'est un peu la maladie des réseaux sociaux qui impose... Parce qu'une diplomatie a besoin d'un peu de secret, ne serait-ce que... Vous savez, cette notion de ne pas perdre la face ou de ne pas faire perdre la face. Et puis de trouver des espaces... Et ensuite, on va tirer le fil de la pelote. Mais il faut trouver des espaces. Et cela se fait parfois un petit peu dans le secret. Ça se fait un petit peu... Voilà. Donc moi, j'ai un peu peur de cette
exposition.
Voilà, de cette surexposition, même si c'est l'occasion aussi de rappeler que les diplomates sont là, qu'ils sont en première ligne, qu'ils agissent avec courage et qu'ils agissent notamment au service de nos compatriotes. Je pense que c'est important de le rappeler et de le faire valoir.
Et quel est le métier d'ambassadeur aujourd'hui ? Est-ce qu'il est différent de... du métier que vous avez connu?
Oui, je dirais plutôt le métier de diplomate. C'est vrai que quand je compare à ce que j'ai pu pratiquer au début de ma carrière, donc je suis rentré au Quai d'Orsay en 1976, le monde a changé, les formes de transmission ont changé, les technologies ont changé. Bien sûr, souvent les conflits sont restés les mêmes, les situations sont restées les mêmes, mais la forme du travail a évolué de par les moyens technologiques qui sont différents. Je pense qu'aussi aujourd'hui, les notions d'insécurité deviennent très lourdes. Elles ne l'ont pas toujours été à ce point-là. Effectivement, les choses évoluent et je suis dans des jurys de concours et je vois les nouveaux collègues rentrer au Quai d'Orsay. Je pense à eux et je leur dis, je pense que vous ne ferez pas exactement le métier que j'ai pratiqué, mais le vôtre sera tout aussi passionnant.
Si vous aviez un message pour les jeunes, quel serait-il ?
Le message pour les jeunes, j'ai j'ai deux messages un petit peu... qui soit un petit peu littéraire, si vous me permettez.
Oui.
Le premier, c'est Les nourritures terrestres d'André Gide. Oui. Nathanaël jette mon livre. Je dirais Nathanaël jette mon écran. je pense que lire les nouvelles, les nourritures terrestres, c'est une lecture qui est passionnante.
Oui.
Mon deuxième message, c'est un message vraiment... parce que je pense à un ami qui était un grand poète afghan, philosophe, qui a été assassiné à Peshawar, qui était un grand ami. On vient de rééditer en libretto, donc en livre de poche, son œuvre poétique majeure. Et lui, il a écrit sur le rire. Et je pense que le rire est un don précieux, une grâce faite aux humains. Mais seul celui qui sait d'abord rire de soi sera capable d'accéder à ce rire authentique des amants. Et je pense que mon deuxième message, c'est le rire aussi. Je pense que c'est une valeur extraordinairement précieuse.
C'est très joli. Je vous remercie infiniment, Régis Couetchette, pour cette émission qui est passée très, très vite. Merci de nous apporter cette ouverture sur les différentes cultures et la foi en l'humanité. Continuons à nous enrichir de l'autre et évitons de construire des murs. Voilà, alors courez au musée Guimet, au Quai Branly, courez vous nourrir. Vous avez donc écrit deux livres. Le premier, Diplomate dans l'Orient en crise, aux éditions Hémisphère, et À Kaboul rêvait mon père, aux éditions Nevikata. Voilà. Donc vous avez aussi évoqué tout à l'heure le CEREDAF, qui est le Centre d'études et de recherche documentaire sur l'Afghanistan. Donc vous pouvez aller pianoter sur Google et regarder un petit peu. Il y a beaucoup de conférences, voilà, des tas de choses qui sont organisées. Merci aux techniciens, merci à Tom Morris et à Jessie Mouchez. À très bientôt, je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission avec vous, cette fois-ci sur un thème différent. Voilà, merci beaucoup et à bientôt, à dans 15 jours. Thank you.
wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of